L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Christian Robert, prêtre du diocèse de Cahors, doyenné de Serre-Dordogne.
Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris? Tu en as eu cinq. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un homme prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent et ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, « Que cherches-tu ? » ou bien, « Pourquoi parles-tu avec cette femme ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, « Encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui. » Le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Dans les lectures de ce 3e dimanche de carême, il y a vraiment à boire et à manger, ou pas. Et donc, des gens qui ont soif ou faim, ou pas. Les apôtres, revenant des courses à Sychar en Samarie, sur la route qui remonte de Judée à la Galilée, sont surpris, nous dit le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Surpris de voir Jésus parler à une femme, c'est dire si ça ne devait pas être tant que cela dans ses habitudes. N'en déplaise à l'illustre Marie-Madeleine. Mais peut-être que vous, de votre côté, vous êtes plutôt surpris de le voir parler à une multiple séparée, divorcée, remariée, vivant désormais en concubinage. 20 siècles avant la création de chrétiens divorcés Chemin d'Espérance et de chrétiens divorcés 46. Et surtout, alors que le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu rapporte qu'il a affirmé Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Mais on se calme. Il est connu que l'apôtre évangéliste était plus théologien que détective privé. Dans son texte, il fait donc naturellement plus œuvre de théologie biblique que de reportage factuel. Enfin connaisseur de l'intérieur de l'histoire d'Israël. Et, de fait, on ne peut que constater que son propos est au minimum quelque peu métaphorique. Souvenons-nous que, dans les lectures de la semaine dernière déjà, notamment le récit de la Transfiguration, la thématique foncière concernait le chemin de l'Alliance. Dans l'évangile de ce dimanche, c'est un peu pareil. Lorsqu'on nous rapporte que Jésus déclare à la Samaritaine « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. » Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. En fait, il fait surtout référence à l'histoire d'Israël avec les Samaritains. En effet, à la base, ce ne sont pas des Juifs, mais des étrangers déportés, comme nous le raconte le chapitre 17 du deuxième livre des Rois. La population du royaume du Nord, constituée de 10 tribus d'Israël, a été déportée ailleurs après la chute de Samarie, la capitale, en -722. Et le roi assyrien fera venir, là, 5 autres groupes de population pour s'installer. C'est sa stratégie de maintien de l'ordre. Il faut désorienter et diviser pour mieux régner. Résultat des courses, 2 Rois 17-24, le roi d'Assour fit venir des gens de Babylone, 1, et de Kouta, 2, d'Awa, 3, de Hamath, 4, et de Sepharwaïm, 5, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des fils d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et s'établirent dans ces villes. Le problème est qu'au début, ça ne se passe pas très bien, car, en bon polythéiste, ils font naturellement ce qui déplaît au Dieu d'Israël. Alors le roi d'Assyrie leur envoie un prêtre israélite pour les coacher. Le roi d'Assour donna cet ordre. « Faites partir là-bas un des prêtres que vous avez déportés. » Qu'il aille habiter là-bas et qu'il leur enseigne le rite du dieu du pays. L'un des prêtres que l'on avait déporté de Samarie vint s'installer à Bethel. Il leur enseignait comment on doit craindre le Seigneur. Mais ce fut un demi-succès, car, c'est bien connu, chasser le naturel, il revient au galop. Du coup, chacun se met à pratiquer une forme de judaïsme teintée de son paganisme natal. Un peu comme un élu parachuté pour des raisons politiques. Et voilà comment on se retrouve avec une communauté croyante juive qui se veut observante sans être native. L'appellation « samaritain » vient de « chamérim », issu du verbe hébraïque « lishmor », qui signifie « garder » ou « ceux qui gardent ». Et donc, étymologiquement, les Samaritains sont les observants. Mais le plus important ici est ce que les lectures de ce dimanche disent de nous, les chrétiens, au final. En tant que nouveau peuple de l'Alliance, sommes-nous simplement une sorte de nouveau ramassis de croyants mi-monothéistes, mi-polythéistes, fidèles d'un Dieu en 3 personnes? Ou encore une nouvelle forme de juif observant, avec ses propres croyances, ses propres rites, ses propres lieux de culte, etc. Une obédience de plus, en somme, qui se veut encore plus observante que les derniers observants en date à l'époque de Jésus, les Samaritains. Ou sommes-nous vraiment autre chose? C'est là que l'apôtre Paul entre en scène avec l'extrait du chapitre 5 de sa lettre aux chrétiens de Rome. Notre deuxième lecture. Franchement, quand je l'ai lu, j'ai halluciné. Pas seulement parce qu'il ne parle pas d'eau ou de soif, associé à une vieille querelle, Mériba, comme dans l'évangile de Samaritaine, ou une récrimination et une mise à l'épreuve, Massa, comme pour les Hébreux dans le livre de l'Exode, épisode rappelé par la 3e strophe du psaume 94 aujourd'hui. Non! Ce passage du chapitre 5 de la lettre aux Romains est spécial. Rendez-vous compte, il ne parle pas de différends ou de malentendus. Il parle de quelque chose que l'on a en commun, quelque chose que l'on a à partager. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu. » Ça change, vous ne trouvez pas? Ni eau, ni soif, ni compte à régler avec Dieu. À la place, on a la foi et la paix avec lui. Et quand on lit entre les lignes, on voit même une toute autre architecture. En quelques lignes, on a la foi, l'espérance et l'amour, soit les trois vertus théologales, ces trois connecteurs en prise directe avec Dieu que les chrétiens connaissent bien aujourd'hui. Mais il va plus loin, car cette trilogie est associée au cours des mêmes quelques lignes au nom de Dieu le Père, au nom du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et au nom de l'Esprit-Saint. La Trinité Sainte, donc, qui nous offre la promesse d'avoir part à sa grâce, par le fait de la mort du Christ, de façon totalement imméritée. Alors, je me suis dit que, si l'Évangile avait choisi de mettre ce texte ici, aujourd'hui, il devait bien y avoir un lien entre la soif et la mort du Christ sur la croix. Et c'est alors que je me suis souvenu que Jésus, sur la croix, a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27. C'est le temps de l'épreuve pour le Seigneur. Puis il a dit « j'ai soif » Jean 19. C'est le temps de la soif. Et quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout est dit. Les Israélites ont soif. C'est le temps de l'épreuve et de la faute. On leur donne à boire, puis il avance, faire leur libération en terre promise. Et le Christ, sur la croix, a soif. C'est le temps de l'épreuve pour la rédemption de nos péchés. Puis on le donne à boire, et il dit « tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Ce faisant, il scelle sa libération des vicissitudes de cette vie en s'endormant dans la mort et en donnant accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, dont parle Paul dans sa lettre aux Romains. C'est la pépite du jour en ce carême 2026. Ayez soif de croire, d'espérer et d'aimer. Et le salut de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, vous sera promis. Amen.